Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alex-Régin Gimbal en votre compagnie. Hugues Léger est à mes côtés. Hugues, je te salue d'abord et avant tout. Comment te portes-tu?
Ça va bien. Après deux semaines intenses et de nuits un peu mouvementées, content de reprendre un rythme de sommeil normal, mais on a été quand même choyé par une grande édition de l'Open d'Australie et d'un nouveau champion de Grand Chelem, Yannick Sinner, un très grand champion. Et je le répète, probablement le prochain numéro 1 mondial.
Oui, ça se pourrait très bien qu'il soit un numéro 1 mondial. Nicolas Richard n'est pas avec nous aujourd'hui. À mon grand désarroi,
mais oui.
Parce qu'il aurait dû se défendre de cette citation-là. Nico, est-ce que Novak Djokovic, à la lumière de ce qu'on a vu en fin de saison, quoi que je dis ça, puis il a remporté quand même les finales de l'ATP, là, mais est-ce qu'on a vu, c'est juste qu'on n'est tellement pas habitué à le voir perdre, est-ce qu'il commence à plier selon toi?
Je te répondrai, Alex, par une prédiction. Et tu peux le prendre en note le 39-27 dans le timeline.
D'habitude, tu n'es pas très bon dans ces choses-là. Alors, je vais le prendre en note pour pouvoir le ressortir.
Novak Djokovic remportera le Grand Chelem doré, les gars.
Ouh!
Hey, on commence la saison fort, les gars.
On prend ça en note.
C'est l'année pour le faire. Oui, ça commence peut-être un peu de manière périlleuse, mais c'est Djokovic, les gars. Il va se replacer. C'est du momentum. Il prend du bon temps en Australie. Va finir par gagner l'Australie, j'en suis convaincu. Le plus grand champion de l'histoire de ce tournoi-là. Il sait comment faire. Les gens vont commencer à le prendre un peu plus à la légère. Ah, il est fragile. Ah, ça a été compliqué dans les premiers tours. Gagne des matchs en 3-7. Même chose à Roland Garros. Ce sera la fête à Nadal. Djokovic sera là. Les Olympiques, sa dernière chance. C'est l'heure assurée. Wimbledon, il est maître sur gazon. Le tournoi est à lui. Finir la saison avec un grand chelem à New York, les gars. C'est pas, la recette, elle est simple.
Non, il n'y aura pas de grand chelem doré pour Novak Djokovic. On le sait déjà. On avait pris un petit pari lors des deux premiers épisodes. Nico et moi, j'avais dit, si jamais Novak Djokovic remporte le grand chelem doré, je vais t'amener au US Open s'il est en mesure de le faire. Rendu là, toutes dépenses payées. Le portefeuille de Alex va mieux s'emporter parce que je n'aurai pas de voyage à payer à Nico. C'est quand même audacieux comme prédiction, mais je vais lui en faire parler la semaine prochaine, ça, tu peux être sûr.
Alexandre, c'était ma première question pour Nico aujourd'hui. Donne-nous un petit status du Grand Chelem doré de Djokovic. donc, ça n'aura pas lieu. Par contre, comme on en parlait hors d'onde, deux joueuses peuvent faire un Grand Chelem doré cette année. Donc, il y a Yannick Sinner qui gagne le premier Grand Chelem de l'année, Aryna Sabalenka du côté féminin. On répète, c'est quoi un Grand Chelem doré? Donc, c'est la victoire dans les quatre Grands Chelems de la saison. Donc, Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open. Et en une année olympique, une médaille d'or olympique. Donc, c'est une année 2020. Ou quelqu'une pourrait faire un grand chelem doré.
Oui, exact. Il y en a deux qui sont en possibilité de le faire, mais ce ne sera pas Novak Djokovic. Oh, je crois que les deux candidats qui sont là sont définitivement des candidats qui pourraient le faire, mais on l'a vu dans les dernières années. Déjà un grand chelem calendrier, c'est pas évident. Grand chelem doré encore plus compliqué. Alors non, écoute, ce ne sera pas simple. On va en reparler beaucoup de ce qui s'est passé cette semaine en Australie. On commence justement avec la finale de Yannick Sinner. Cette victoire de Yannick Sinner qui est surprenante, mais pas tant que ça en même temps.
Non, c'est le joueur en forme du circuit. On en a parlé. Il a déjà battu Novak Djokovic, Yannick Sinner à deux reprises en fin de saison 2023 et rebelote en demi-finale à l'Open d'Australie. C'est le joueur à surveiller. Moi, je suis étonné du degré de maturité, de confiance, de calme de Yannick Sinner. Il sait sortir les grands coups au bon moment. Donc, il a bien dominé Djokovic en demi-finale. Donc, ce n'est pas une surprise là, qui a réussi à se sauver avec le titre. Mais quand même, il faut parler des 24 heures et 17 minutes que Daniil Medvedev a passé sur le terrain durant cette quinzaine à Melbourne. Il a dû arriver un peu fatigué en finale. Et moi, je craignais que si ce n'était pas bouclé en 3-7 ou 4 pour lui, qu'il allait perdre ce match-là si ça allait à la limite. Et c'est bien ce qui s'est passé.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de fatigue, on pourra y revenir, mais avant de parler de Medvedev, parce que je pense qu'il y a long à dire également sur Medvedev, je veux qu'on puisse entendre cette clip de Yannick Sinner après cette victoire, et je pense que c'est une leçon pour tous les athlètes, tous les parents d'athlètes, et pas juste pour les athlètes de haut niveau.
I wish that everyone could have my parents, because they always let me choose whatever I wanted to. Even when I was younger, I made some other sports, and they never put pressure on myself, and I wish that this freedom is possible for as many young kids as possible. So thank you so much for my parents.
René Sinner qui a remercié ses parents en disant ben, « Je suis content que mes parents m'aient laissé faire mes propres choix et m'aient laissé faire d'autres sports aussi. Oui. » Et c'est un moment bien intéressant pour pouvoir faire ce genre de révélation et je pense que c'est une leçon. Toi, tu le sais, tu as des enfants qui sont dans le sport, tu en as même dans le sport de haut niveau. Je pense que c'est une leçon pour bien des parents.
C'est un des meilleurs discours de cérémonie de trophée que j'ai entendu, honnêtement, Alex, depuis très longtemps. Le fait qu'ils prennent le temps de souligner ça, et j'ai particulièrement aimé le fait qu'il ait dit « Je souhaite que plusieurs enfants aient la même liberté que j'ai eue dans le choix de sport, dans le fait qu'il n'y a pas eu de pression d'aller sur un sport plutôt que l'autre. » Moi, c'est des questions que je me suis posées avec mon garçon, notamment en ce moment, et je l'ai laissé choisir. Et je pense que c'est la bonne chose. Et je pense que le comportement, l'attitude, le côté cool que Yannick Sinner démontre aussi, ça vient aussi de ces choix-là qu'il y a eu. On sent qu'il n'y a pas eu cette espèce d'étau parental et du fait que des parents font de la projection souvent sur leur enfant. Et bon, il y a eu beaucoup de succès hein, aussi de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr que ça fait des gens nécessairement heureux. Hein. On pense aux Agassi, Sharapova et autres qui ont eu des enfances, qui n'ont pas eu d'enfance en fait. C'est leurs parents qui ont pris le contrôle, mais ça a été des grands champions. Mais Sinner, ses parents ont pris une autre voie et je pense que c'est admirable. Il faut retenir ça. Et cette clip-là, Alex, a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et c'est une très bonne chose. Les gens ont très bien réagi à ça.
C'est un 12e titre pour Yannick Sinner, un premier en Grand Chelem. C'est un gars qui, j'ai l'impression, affronterait Daniil Medvedev en finale à tous les jours de sa vie. Écoute ça. Beijing, septembre 2023. Victoire contre Medvedev en finale. Vienne, octobre 2023. Là, donc, il y a quelques mois à peine. Victoire de Sinner contre Medvedev. Et là, janvier 2024, Medvedev en finale contre Sinner. Victoire de Sinner. Je pense que Daniil Medvedev doit faire des cauchemars de voir Yannick Sinner en finale contre lui.
Ben oui, c'est maintenant 4 victoires de suite pour Sinner après que Medvedev ait gagné les 6 premières rencontres contre lui. C'est toujours 6 et 4 les rencontres en faveur de Medvedev, mais les 4 dernières, c'est Yannick Sinner. Donc, il a le numéro de Medvedev. Encore une fois, il le mérite parce qu'on sait à quel point Medvedev est bon sur ce type de surface dure. Hein. Il dit lui-même, il est un maître de la surface dure, mais depuis 2023, Sinner, il est intouchable par Medvedev.
Je parlais de Medvedev qui va faire des cauchemars. L'autre raison pour laquelle il va faire des cauchemars, c'est qu'il menait cette finale 2-7 à 0. Et ce n'est pas la première fois qu'il échappe une finale en Australie alors qu'il naît 2-7 à 0. Je veux dire, c'est rare qu'on voit ça là, revenir de 2-7 à 0 dans un match aussi important. Là.
Oui, on se souviendra de la finale contre Nadal. Ouais. Et il avait un break en plus après avoir gagné les 2 premiers sets assez facilement, avait un break d'avance dans le 3e set contre Nadal. Et Nadal est revenu finalement dans cet Open d'Australie pour aller chercher son 22e titre. Mais c'est un record que Medvedev doit mal digérer. Hein. Donc, c'est 2 victoires en Grand Chelem de plus qui étaient à sa portée, qui l'a échappé. Mais je crois, Alex, quand même que Medvedev va bien s'en remettre parce qu'il a fait un sacré bon tournoi. Je pense qu'il aura le recul. Il a l'intelligence aussi pour mettre ça en perspective. Il a fait une très, très belle quinzaine à Melbourne. Je pense qu'il va s'en remettre. Il va revenir et il y aura une très bonne saison en 2024, Daniil Medvedev.
Ben écoute, c'est sûr que c'est difficile une défaite comme ça, mais quand tu es à 1-7 du titre, faut que tu vois le positif. Je veux dire, il n'y a personne qui était plus proche que toi à part Yannick Sinner dans ce tournoi-là. Alors, c'est sûr que c'est décevant. D'ailleurs, on va se permettre d'écouter une clip d'après-finale de Daniil Medvedev.
I got a little tired physically, but like every other match before, just every other match before, my opponents didn't manage to take advantage of it, or them also, they became tired. And Yannick didn't really, because in the 5th set, I was like every other match, I was trying to be proud of myself, and I am. I was fighting, I was running, and I was like, you know, I will try to, if tomorrow I don't feel my legs, it doesn't matter. I'm going to try everything I can today till the last point, and I did it. And there were some points in the end where he was not, I mean, adrenaline going, but he didn't seem as tired as my opponents before. So he started playing better. I got a little bit tired. Serve went a little bit worse. So the momentum changed, and I really tried in my mind to change it back again, because that's what tennis is about. But I didn't manage to do it, and that's why he's a winner and he has a trophy.
En prenant les choses avec philosophie, Daniil Medvedev. D'ailleurs, on va en parler là, parce que je veux qu'on continue de parler de Medvedev, surtout pour ce qui s'est passé en demi-finale. Il affrontait Alexander Zverev et s'il fait des cauchemars de cette finale-là, ben peut-être qu'il peut se consoler d'une certaine manière parce qu'il a battu son grand rival, oui. Zverev. Et puis, la série Breakpoint avait fait grand état de leur rivalité.
Ben, dans ce match-là, c'est Medvedev qui est revenu de 2-7-0 pour aller chercher ce match-là en 5-7, un match de 5 heures. C'était 5-5 dans le troisième set et il a trouvé une façon d'aller breaker Zverev et de sauver avec le match par la suite. Mais oui, on l'a vu à la caméra, on ne l'a pas entendu, mais il semblait dire... le mot karma qui avait été mis de l'avant par Zverev dans l'épisode de Breakpoint là, qui parlait de la rivalité entre Medvedev et Zverev. Et Zverev qui disait, moi j'ai l'impression que Medvedev n'est pas toujours fair play, ses méthodes sont questionnables sur le terrain, mais je crois au karma, que le karma va donc le rattraper. Mais visiblement, le karma a joué en faveur de Medvedev dans ce match-là. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une sacrée rivalité. Ils ont des matchs extrêmement serrés à chaque fois. Et Alexandre, encore une fois, Medvedev, sur un point clé, a dérangé Zverev. Il y a eu une balle servie qui était un as. Tout le monde l'a vu et je suis convaincu que Medvedev l'a vu aussi bonne sur la ligne. Il m'a demandé une reprise vidéo pour se reposer un peu, mais aussi peut-être briser le rythme un peu. Et l'ordinateur de la reprise vidéo n'a pas fonctionné. Fait que ça a coupé complètement le momentum que Zverev avait à ce moment-là. Et c'est après que Medvedev a réussi à reprendre l'ascendant dans le match. Et encore une fois, il a réussi à jouer dans la tête de son adversaire. On l'appelle, vous le savez, le chess master, le maître des échecs. C'est un grand stratège, c'est un grand tacticien, Medvedev. Et il l'a prouvé encore une fois là, dans son match contre Zverev. Et il a sorti un coup fumant en retour. Pour ceux qui l'ont vu, une espèce d'amorti du coup droit que Zverev n'a pas réussi à rattraper en montant au filet. Un coup improbable là, au moment le plus tendu qu'il a réussi à exécuter. Moi, je suis un grand fan de Medvedev, vous le savez. Là, je pense que c'est un gars qui amène beaucoup au tennis. Il faut prendre le temps de le regarder, voir comment il gère ses matchs pour être impressionné. Ses matchs contre Urkac, notamment aussi plus tôt durant le tournoi, il était quelque chose à voir. Mais là, maintenant, il a le record pour avoir passé le plus de temps dans l'histoire des grands chelem sur le terrain avec ses 24 heures 17 minutes là, dans les deux semaines à Melbourne.
Ouais, et pour en revenir à la clip Karma, ben ouais. Il s'en est défendu, Daniil Medvedev, d'avoir dit ça sur le terrain. Je vous propose de l'écouter.
Non, was not it. I tried to not go on Twitter, but I went on Twitter and I saw it all over the place. I was like, oh my God. No, I, as I said just right now, I don't want to go, you know, to let's say, because it's a little bit like when you try, you know, to touch someone and then he touches you back and then you touch someone. I want to, you know, I had my moments probably the most with Tsitsipas, and even with him, we seem to be, you know, we're not friends, but we seem to respect each other more than before. So same, it was something related to my team, something about mentality. So yeah, nothing to do with this. I would not be happy to do it this way.
Bon, il a nié encore une fois avoir dit ça sur le terrain. C'est pas la première fois là, qu'on le voit faire. J'oserais dire une phrase, que c'est pas tout à fait le bon terme, là, mais du moins attirer l'attention pour ce qu'il fait sur le terrain. Bon, tu te souviendras la fois où il avait regardé ses ongles, mon cher Hugues.
À Paris. Oui, à la sortie du terrain au Masters Mill de Paris l'automne dernier, où il avait été conspué par la foule pendant une grande partie du match. Et en sortant, ben, il fait un doigt d'honneur à la foule, on va le dire. Mais en conférence de presse, il dit « Non, je me regardais la main, je regardais mes ongles. » Mais bon, clairement, là, il y avait eu un doigt qui était dominant dans ce moment-là. Et il l'avait nié en conférence de presse. Moi, je pense encore une fois qu'il maîtrise très bien sa communication et comment il joue dans la tête des adversaires au bon moment. Puis après, en conférence de presse, ben, il peut dire ce qu'il veut, parce que c'est souvent sujet à interprétation.
Ouais, il a quelque chose de bon enfant sa façon de gérer ses controverses de Daniil Medvedev. C'est presque impossible de ne pas l'aimer parce que, il nous fait sourire d'une certaine manière avec ces choses-là. On a presque plus envie de le prendre dans nos bras que de baisser les épaules et dire « Ah non, une autre », alors que…
Ouais. Ce qu'on aime beaucoup de Medvedev, c'est qu'il est très candide, il est intelligent, il est généreux dans ses commentaires, il a beaucoup d'humour, il est très drôle. Encore une fois, je pense que c'est un gars qui est admirable et qui est très bon pour le tennis, mais c'est un régal de l'entendre à chaque fois. Vous avez peut-être vu son explication sur sa position de retour de service dans son entrevue d'après-match avec Jim Courier. C'était du bonbon pour un fan de tennis, là. Donc je pense qu'il nous amène beaucoup de plaisir sur le terrain en conférence de presse, Medvedev.
Oui, ça c'est certain. Il a beaucoup de plaisir. L'autre joueur dont je veux parler avant qu'on ait du côté féminin, Hugues, et on en a parlé dans les deux premiers épisodes, la question que je posais était la suivante. Est-ce que Novak Djokovic commence à flancher? Dans ses standards, je veux dire, il avait perdu deux fois contre Yannick Sinner en fin de saison l'année passée au final de l'ATP et à la Coupe Davis. Il perd à nouveau contre Yannick Sinner dans le tournoi qui lui appartient, l'Omnium d'Australie. Est-ce que Novak Djokovic commence à perdre de son aura d'invincibilité?
Ben, c'est une combinaison de choses, je dirais. Hein. 36 ans, tôt ou tard, il a beau être dans la meilleure forme du monde, avoir probablement le meilleur mental du tennis encore aujourd'hui. La génération qui pousse s'améliore aussi. Donc, Sinner, Alcaraz, Medvedev l'ont tous déjà battu dans des moments importants. Je parle de tournoi de Grand Chelem. Donc, forcément, il a plus d'opposition qu'il pouvait avoir peut-être il y a un an, deux ans, trois ans, quand les autres deux membres du Big Three étaient sur la fin ou avaient ralenti, en tout cas, évidemment, quand on parle de Federer et Nadal. Mais là, il y a des joueurs plus jeunes qui poussent, qui ont tout le talent pour aller chercher des victoires contre lui. Et effectivement, il n'était peut-être pas à son meilleur à l'Open d'Australie, mais depuis 20 ans, même quand Djokovic n'est pas à son meilleur, il trouvait une façon de gagner. Mais là, il y a des joueurs qui sont en mesure de le battre et c'est ça qui est la nouveauté.
Ouais, on verra peut-être qu'il gagnera les trois prochains Grands Chelems et qui sait, la médaille d'or olympique qui lui a échappé non, également. Ça se pourrait. Il pourrait avoir un triple doré peut-être, mais j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la compétition, elle est plus rude que jamais. Je veux dire, Carlos Alcaraz ne s'en fera pas imposer non plus. Exact. Tu me dis qu'Yannick Sinner a peut-être le prochain numéro un mondial. On peut exclure que Medvedev ait gagné peut-être un US Open, et peut-être pas Roland-Garros pour Medvedev, mais qui sait?
Et Alex, une petite stat là, que je voulais partager, c'était la première fois donc depuis 2014 qu'il n'y avait pas de membre du Big Three dans la finale. C'était la dernière année, c'était en 2014, l'année Vavrinka avait gagné, je te remercie. Et depuis, c'était Big Three à chaque année, sauf cette année, effectivement, où ça a été Sinner qui a été le champion. Donc, on voit qu'il y a une page qui se tourne définitivement, je dirais, en ce moment. À chaque année, on hésitait. Est-ce que c'est la fin du Big Three? Est-ce que le Big 1 seulement, maintenant, qui est Djokovic? Mais même là, le Big 1 se fait brasser beaucoup en ce moment. Et il y a plusieurs stats là, qui viennent bousculer tout ça. Puis, dernier point sur les statistiques là, qui ressortent de cette finale, c'est dans les 11 derniers matchs de Yannick Sinner contre des top 5, il a 10 victoires, 10 en 11 contre des top 5. Et c'est ça qui me fait dire que c'est le prochain numéro 1. Donc, il peut battre tout le monde, Sinner, maintenant.
Pas de champion depuis 2014, pas de top 3 champion depuis 2014, puisqu'évidemment, Nadal était en finale de cette finale en 2014 avec Wawrinka, mais c'est quand même impressionnant que pendant 10 ans, ce tournoi-là a été dominé par notamment Novak Djokovic, mais Nadal et Federer également. Oui. On l'a vu, Federer a vécu ses derniers grands moments dans ce tournoi-là. Hugues, on va faire une courte pause et au retour, on va regarder ce qui s'est passé du côté des femmes.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre nuitée, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper trois services au restaurant Mon Ami. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous en trompez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmonem.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, mais que nos plateformes qu'on a eues dans les dernières années, il y aura un glissement vers les plateformes de C23 via notre entente avec Cogeco, dont on est bien fier. Et je vous rappelle qu'on a également une version à la télévision maintenant à TVA Sport. Le premier épisode de la nouvelle saison de Sur la ligne télévisuelle, parce qu'il y a eu quand même le résumé de fin d'année, ce sera cette semaine, si vous nous écouter dans la dernière semaine de janvier. Hugues, on a fait en long et en large ce qui est passé du côté des hommes et du côté des femmes. Pas beaucoup de surprises puisque Aryna Sabalenka, qui est peut-être la meilleure joueuse du côté des femmes présentement, a défendu son titre en Australie et pas beaucoup de surprises là.
I'm speechless right now. I don't know how to describe my emotions, but definitely I'm super, super happy and proud of everything I was able to achieve so far. And yeah, just happy with the level I play today. And she's a great player and very tough opponent. And I'm super happy that I was able to get this win today.
Une Aryna Sabalenka dominante durant la quinzaine en Australie. Il y a seulement une joueuse qui lui a pris plus que 3 jeux dans un set, et c'est Coco Gauff, donc reprise de la finale du US Open lors de la demi-finale en Australie. Match gagné par Sabalenka, cette demi-finale 7-6, 6-4. Mais sinon, aucune joueuse a réussi à prendre plus de 3 jeux. Aucun set échappé. C'est une dominance complète là, pour Sabalenka. Et comme je l'ai dit pour je crois que Sabalenka va rattraper Swiatek au premier rang mondial dans les prochaines semaines. Le Sunshine Double s'en vient. Il y a beaucoup de points qui sont en jeu au mois de mars. Sabalenka n'a plus de failles dans son jeu et mentalement, elle est bien. Elle vit bien avec ses émotions, qu'elle soit heureuse ou fâchée sur un point. Ça sort à notre grand plaisir parce qu'elle est vraiment divertissante et attachante, cette Aryna Sabalenka. Mais quel tournoi elle a fait en Australie?
Oui, elle est vraiment bonne pour le tennis, Sabalenka. Ben, franchement, dans la victoire ou dans la défaite, c'est une fille qui laisse beaucoup parler ses émotions et qui est très transparente, je pense, et le public l'apprécie beaucoup. Oui. C'est une fille tellement souriante aussi en dehors du terrain. Et ben, franchement, je pense qu'on voudrait tous être amis avec une Aryna Sabalenka et on voudrait tous avoir son service et son coup droit, son puissant coup droit et son puissant service. Les seules personnes qui n'aiment pas son coup droit et ses services, c'est ses adversaires. D'ailleurs, parlant de son adversaire, je m'en voudrais de ne pas parler de Qin Wenzheng qui quand même fait une percée dans le top 10. On en parlait la semaine passée comme quoi c'était peut-être la fille dans le top 20 la plus sous-estimée et la fille qui manquait peut-être le plus grand, qui avait le plus grand déficit de notoriété. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des meilleures joueuses sur le circuit à tout juste 21 ans.
Oui, nouvelle joueuse dans le top 10 dans le classement de WTA ce matin. Une protégée donc de Nali, qui est la dernière grande championne chinoise qui est allée jusqu'au numéro 2 mondial. Oublions-le pas, ça fait pas très longtemps. Donc, je pense qu'elle agit un peu comme mentor avec Zheng. Donc, oui, c'est une joueuse qu'on va voir beaucoup cette année. Bon, ça n'a pas été une grande finale. Hein. Je le répète, le gros match, ça a été contre Coco Gauff en demi-finale. Ouais. Mais quand même, le fait qu'elle se rende en finale d'un grand chelem, il faut le souligner. Et encore une fois, la Chine développe de plus en plus de joueurs et de joueuses de très haut calibre.
Non, exact. Et j'ai hâte de voir ce qui en deviendra de Zheng parce que ce sera peut-être un digne successeur à Nali ou Lina, dépendant de comment vous voulez prononcer le nom. C'est toujours la question qu'on se pose dans le cas des joueuses chinoises. Par contre, quand on regarde le tableau, bon, je veux rien y enlever à Zheng. Tantôt, je faisais plein d'éloges, mais il reste que son tableau, elle a profité de beaucoup de défaites rapidement. Le haut du tableau, là, on en parlait la semaine passée avant les demi-finales, de dire le haut du tableau a été détruit assez rapidement dans le tournoi là, pour les grandes joueuses.
Oui, ben je disais que 4 des 20 têtes de série, des 20 premières têtes de série en Australie en deuxième semaine, ça pose certaines questions. Mais encore une fois, pour moi, il y a 2 ou 3 joueuses, peut-être 4 si on étire un peu, qui dominent vraiment le tennis féminin. Donc, Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff, Rybakina pas très loin derrière. On sait qu'elle peut, elle peut aller chercher des victoires à ce niveau-là, mais quand même, ça reste beaucoup plus ouvert. Mais il faut en tirer avantage et ça permet de voir des joueuses, des nouvelles joueuses qui pointent là, dans les dernières phases des tournois. Et encore une fois, pour moi, Zeng, c'est une joueuse qui méritait d'être là. Il y a eu quelques têtes de série qui sont tombées, mais ça peut arriver dans n'importe quel tournoi du côté féminin. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce que ça soit rendu en finale. Mais je pense que du côté féminin, ça se joue là, entre le fameux Big Three ou Big Four du côté féminin.
Alors que du côté de Sabalenka, ben, quand on regarde son tableau, pour l'essentiel, ça a été particulièrement compliqué, parce que ben, pas compliqué en termes de résultats, mais la qualité des joueuses. Au premier tour, déjà, c'était Ella Seidel, ça vous dit peut-être rien, mais c'est elle qui a remporté les championnats internationaux juniors de Repentigny il y a deux. Alors, c'est quand même une toute jeune fille de 18 ans là, avec énormément de talent quand tu remportes les internationaux de tennis junior à Repentigny. Au deuxième tour, elle avait Brenda Frovirtova. On sait que les deux sœurs Frovirtova sont particulièrement dangereuses. Oui, alors, oui. C'est beaucoup de talent. Et bon, après ça, il y avait Sourenko, Anisimova, excellente joueuse américaine, Krejcikova, championne de Grand Chelem, Coco Gauff, championne en titre du US Open, et Zheng, on en parlait, peut-être la joueuse la plus sous-estimée dans le top 20. Et malgré tout ça, ben, dans ce simple tournoi, il y a eu 3-6-0 à des adversaires, et elle en a 5 depuis le début de l'année en seulement 2 tournois. C'est dire à quel point Sabalenka a traversé la compétition, ouais. Comme on dit.
Tout le monde connaît la fabrique de bagels, ben oui, celle de la rue Saint-Viateur, mais celle de Iga Swiatek aussi, là, qui est réputée pour ses bagels. Yannick Sinner en a fait plusieurs aussi dans ce tournoi-là, mais Sabalenka, c'était... Écoute, on voyait ça débouler 6-0, 6-1, 6-3, 6-2, 6-0. Ça, c'est j'ai rarement vu une dominance comme ça du côté féminin là, sur un tournoi. Il faut remonter à très loin là, pour
Serena,
voir...
Serena, peut-être, là, dans ses belles années.
C'est ça. Je pensais à Serena, je pensais à Navratilova un petit peu avant, qui ont eu vraiment ces approches-là durant les tournois où c'était un rouleau compresseur et peut-être quelqu'un pouvait espérer en demi ou en finale bousculer un peu cette démonstration-là, cette dominance. Mais Sabalenka, moi, je suis content de l'avoir performée comme ça parce qu'on sait qu'elle est passée par des périodes de doute. Elle a eu des soucis sur ses services, elle a eu des problèmes au niveau confiance aussi. Et là, j'aime de la façon qu'elle a progresser au niveau mental, parce qu'encore une fois, ses émotions, elles sont présentes. C'est pas qu'elles sont refoulées ou qu'elle est devenue plus dure. Au contraire, elle se laisse aller beaucoup plus. Ça fait qu'il y a eu des ajustements techniques. Il y a eu une relaxation, je dirais, aussi au niveau mental où son entourage lui a dit, ben écoute, laisse aller tes émotions. Et c'est ça qui est payant aussi, je dirais, dans son jeu et dans sa relation avec le tennis en général. Elle est plus détendue parce qu'elle est plus relâchée.
Et parlant d'émotion, ben, elle a fait quand même un bel hommage à son père parce que, parlons-en. Ben, explique la situation si tu le veux bien.
Ben, c'était un engagement ou un souhait qu'ils avaient pris ensemble. C'était de gagner 2 grands chelems avant l'âge de 25 ans. Elle aura 25 ans dans quelques semaines, Sabalenka. Son père est décédé il y a quelques années, donc elle a pu réaliser ce rêve-là qu'ils avaient ensemble. Donc, cette victoire-là était beaucoup pour son père.
Ben, écoute, et Breakpoint en avait fait grand état de cette relation-là avec son père et de l'importance qu'il a eue dans sa vie. On l'avait même vu dans la première série, si je ne me trompe pas, là, avec des images. Hugues, je veux qu'on parle également de ce qui s'est passé du côté et du double. Peut-être avant, simplement rappeler que c'est un 14e titre là, pour Aryna Sabalenka, un 2e en Grand Chelem, évidemment. Elle défend son titre en Australie. Elle était la championne.
Et elle est maintenant à moins de 1000 points de Swiatek et de la première place mondiale.
Oui, elle a déjà été numéro 1 mondiale. Elle peut très bien y aspirer à nouveau et plus tôt que plus tard dans son cas. Je te disais, je veux qu'on parle du double parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont passées du double. D'abord, Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe-Lapierre, je vais le dire, la paire canadienne, je vais le dire comme ça, atteint quand même la demi-finale. Ils ont perdu en demi-finale, mais c'est quand même un autre bon résultat pour les championnes en titre du US Open.
Oui, puis moi, bon, tu sais, quand tu remportes un titre, évidemment, tu l'as dit, championne en titre du US Open 2023, une demi-finale au premier Grand Chelem de la saison en Australie. Elles étaient quatrième favorite du tableau. Je m'attends à une très bonne année pour les deux et j'espère que c'est une équipe qui va rester ensemble durant toute l'année. Elles ont trouvé leur marque ensemble. Elles peuvent jouer avec beaucoup de confiance. Donc, Erin Routliffe et Gabby Dabrowski, je pense, vont faire honneur au Canada encore en 2024. Là, et c'est bien d'avoir cette stabilité-là au niveau de l'équipe. Là. Très, très bon résultat quand même cette demi-finale pour Routliffe et Dabrowski.
C'est la paire composée d'Elise Mertens et de Sue Sye, j'espère que je le prononce comme oui. Il faut, la coréenne, qui a remporté le titre. Et cette paire-là a remporté le titre devant une de tes préférées, Yelena Ostapenko, qui jouait avec Kishinok. C'est intéressant quand même de voir Ostapenko aller jusqu'en finale du double.
On sait qu'Ostapenko est très, très talentueuse. Malheureusement, je la voyais plus loin un peu dans le tableau de simple. Elle était remontée dans le top 10. Elle est redescendue. C'est Zheng, justement, qui prend sa place ce matin au 10e rang. Mais Ostapenko, c'est une petite démon sur le terrain. Hein. On est toujours à deux doigts d'un drame, mais on sait qu'elle peut battre les meilleures joueuses. J'ai appris à l'apprécier au fil des années. Ostapenko, c'est un peu un running gag là, sur notre fil de chat là, durant la semaine entre nous, parce que c'est une personne qui crée des mimes à chaque action. Elle fait des mous, elle fait des têtes rigolotes. Ses réactions sont toujours intéressantes. Donc, Ostapenko, c'est quand même toujours divertissant de l'avoir joué. Et c'est une sacrée bonne joueuse de tennis pour aller si loin en simple et en double. Donc, chapeau Yelena Ostapenko quand même.
Ce qui me fascine, c'est de voir à quel point, Hugues, tu es à jour dans ta technologie. Là. Lui qui dit que Ostapenko crée des memes à chaque match. Alors, vous allez voir à quel point Hugues Léger suit la parade. Un autre qui se garde à jour et qui n'est pas jeune, et là, je ne suis pas en train de dire que tu es vieux, Hugues, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Rohan Bopanna, champion en double à 43 ans pour une première. Oui. D'ailleurs, un ancien partenaire de Daniel Nestor.
Et nouveau numéro un mondial en double, donc au classement de l'ATP, classement Pepperstone. Donc, Rohan Bopanna, quelle belle histoire à 43 ans. Un homme de famille, donc marié, enfant. Un gars, tu le regardes, qui n'a pas l'air, dans la forme des plus grands athlètes, là, quand on regarde Sinner, Djokovic, mais on sait que le double est un jeu de spécialiste, de tacticien. C'est pas le même jeu qu'en simple. Hein. Il faut être très habile au filet, avoir d'excellentes mains, avoir une bonne communication avec son partenaire. Et c'est une très belle histoire là, d'avoir un champion du monde à 43 ans en Rohan Bopanna. Et tu le dis, ancien partenaire de Daniel Nestor. Donc, il a joué avec un des meilleurs de tous les temps aussi. Moi, ça me fait plaisir de voir cette victoire-là en Australie et ce nouveau numéro un côté double.
Ben oui, il a déjà gagné des titres avec Daniel Nestor. Ouais. Alors, c'est presque un Canadien d'adoption, on va le dire comme ça. Rohan Bopanna, on va le prendre comme ça. Il a gagné le titre avec Matthew Ebden, qui est un Australien. Alors, Ebden qui remporte le titre à la maison. La paire l'a remporté contre Simone Bolelli et Varasori en deux manches de 7-5 et 7-6 et 7-5, voilà, c'est dit. Alors, intéressant de voir que comme le bon vin, Rohan Bopanna continue d'atteindre des sommets alors que il n'est plus jeune quand même, mais c'est quand même une histoire. C'est une histoire qui valait la peine qu'on en parle et c'est pour ça qu'on se le permet dans la version podcast. Hugues, on va faire une courte pause et au retour, on va parler de ce qui va se passer ici même chez nous à la Coupe Davis.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre nuitée, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper 3 services au restaurant Monami. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30, les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous en trompez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alex Régimbal en votre compagnie. Hugues Léger est à mes côtés. Nicolas Richard est absent, mais on le salue en dépit de ses prédictions qui sont tombées à l'eau à l'effet que Novak Djokovic allait remporter le Grand Chelem doré. Meilleure chance la prochaine fois, mon cher Nico. On a parlé justement de ce qui s'est passé en Australie. On va revenir sur ce qui se passe dans notre cours, pas plus tard que cette semaine. Ce sera ce week-end. En fait, la Coupe Davis se jouera au stade IGA à l'intérieur. On aura le droit de voir de très près Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Milos Raonic et Vacek Pospisil. Liam Draxall aussi va faire partie de cette équipe-là. Ce sera contre la République de Corée. Hugues, c'est quand même un match prenable pour le Canada.
Ben oui, l'équipe du Canada qui est deuxième au classement de l'ITF de la Coupe Davis derrière les champions en titre, l'Italie. On arrive avec une équipe, bon, sans Félix Auger-Aliassim et Chapovalov qui joue à Montpellier cette semaine. On en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai confiance en l'équipe qu'amène Frank Dantsevic sur le central intérieur du Centre national au Parc Jarry. Donc, avec Gabriel Diallo, Milos Raonic, Alexis Galarneau, Liam Draxall qui s'est joint à l'équipe aussi. Donc, je pense qu'on va être évidemment, Vacek Pospisil. Donc, on sera en bonne position là, pour aller chercher ce match de qualification-là et de rester dans le groupe mondial. Au niveau des classements, là, on est quand même largement en avance sur les joueurs de la République de Corée. Le joueur le mieux classé en ce moment en simple est 247e au monde, c'est Sing Chang Hong. Par contre, le meilleur joueur qu'on a connu là, dans le top 50, il n'y a pas plus tard que 2022, c'est Su Kwon, qui est maintenant tombé à 697e place, mais globalement, on regarde Diallo qui est sur une très belle lancée depuis 6 mois, avec des victoires notamment contre Musetti en Coupe Davis contre l'Italie. Alexis Galarneau, qui est à la 203e position mondiale, victoire contre Sonego aussi contre l'Italie. On a une équipe quand même là, qui est en mesure d'aller chercher cette rencontre-là le week-end prochain, le 2 et 3 février, vendredi, samedi prochain.
Oui, les deux jeunes de l'équipe canadienne. Ouais. Diallo et Galarneau ont très bien fait en Coupe Davis l'année passée. Ils ont bien fait dans beaucoup de tournois. D'ailleurs, Galarneau est champion à Granby. Diallo a très bien fini la saison également. Et Milos Raonic, il a très bien joué. Il n'a pas joué beaucoup. C'est un point d'interrogation, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait très bien le voir, là, Milos Raonic, dans cette Coupe Davis, parce que quand il a joué, il n'a pas si mal fait. D'ailleurs, il a quand même bien fait contre des mineurs en Australie.
Oui, il avait pris un set à Alex Dominor. Donc, il peut compétitionner au plus haut niveau et on sera dans des conditions intérieures, surface très rapide qui est parfaite pour le style de jeu de l'équipe canadienne. En discutant avec les organisateurs du tournoi un peu plus tôt ce matin, c'est une surface qui est sur mesure pour l'équipe canadienne. Donc, moi, je crois qu'on va aller chercher cette victoire-là le week-end prochain dans une ambiance de feu, comme c'est toujours le cas à la Coupe Davis. Un beau central intérieur d'environ 2000 personnes. Il reste quelques billets, mais ça va jouer à guichet fermé. Mais si vous n'avez pas de billets encore, allez vite voir sur le site de Tennis Canada, Ticketmaster, pour aller chercher ces billets-là. Parce que c'est toujours des ambiances particulières qui détonne un peu avec l'univers du tennis habituel. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de bruit, d'énergie. Ça sera peut-être plus d'un match de hockey au niveau de l'ambiance qu'un match de tennis. On affiche nos couleurs. C'est toujours le fun, ces rencontres de Coupe Davis.
Ce sera présenté à TVA Sport, confrontation. Si vous êtes un fan, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voulez l'écouter à la télévision. Bon, bien hâte de voir qu'est-ce que ça donnera du côté de la Coupe Davis dans ce match de qualification. Je pense que c'est à la portée du Canada, certainement. C'est un deuxième match contre la Corée. Le dernier match était en 2022. Le Canada l'avait emporté. Alors, bien hâte de voir le Canada peut-être retourner dans les finales pour pouvoir peut-être reconquérir éventuellement ce titre du côté de la Coupe Davis. Hugues, ce dont on n'a pas parlé encore, c'est que Félix et Denis Chapovalov auraient peut-être pu faire partie de cette équipe-là, mais ils ne seront pas là parce qu'ils ont décidé d'aller jouer un tournoi en France du côté des deux joueurs canadiens. Peut-être qu'on a décidé d'aller chercher, gratter des points là, pour le classement mondial.
C'est certain. Il y a sûrement eu un calcul qui a été fait. Bon, on joue contre la Corée du Sud, République de Corée. C'est un match qui est prenable, on le dit, même si le joueur le mieux classé n'est pas sur l'équipe. On sait aussi que Denis Shapovalov avait été annoncé sur l'équipe au départ. Il s'est retiré. C'est Miloš qui l'a remplacé. Mais on retrouve cette semaine à Montpellier, à l'Open du Sud de France, dans un ATP 250. Et Félix et Denis, dans la même portion du tableau, en passant, on va en reparler. Pourquoi? Ben, ils ont besoin de points tous les deux. Je pense qu'ils ont fait un choix pour leur carrière en ce début de saison. Et se sont dit que les Diallo, Raonic et Gallardo feraient le travail à Montréal. Et eux ont besoin de points en ce moment. Félix et Denis sont à la recherche de repères, de sensations et de victoires là, depuis quelques mois. Donc, je pense qu'ils ont fait un choix qui se comprend aussi. Et ils ont un tableau, ma foi, qui est prenable, surtout pour un Félix là, qui devrait bien passer à Montpellier.
Ben, justement, tu parles du tableau et tu sais que j'aime beaucoup regarder les tableaux d'avance pour ce que ça donne. Des fois, ça se mêle pas mal, mais j'aime beaucoup regarder en début de tournoi. Et Dieu sait que je suis le premier, des fois, à défendre le fait que Félix a été plus souvent qu'autrement malchanceux dans des tirages au sort, ce qui n'est pas vraiment le cas dans ce tableau-là. Parce que quand on regarde, bon, évidemment, il y a Arthur Cazot là, au deuxième tour qui pourrait se pointer. Oui. Cazot a bien fait en Australie avec un quatrième tour. C'est peut-être le piège, là.
Oui. Oui, effectivement, on sait que Cazot s'est rendu à Melbourne jusqu'en ronde des 16. Seulement, Hubert Hurkacz l'a sorti dans un match en 3-7, mais très serré. Il a perdu 7-6, 7-6, 6-4 contre Hurkacz. Donc, très bonne performance du jeune Cazot. Donc, c'était un premier match piège, encore une fois, pour Félix Auger-Aliassime, qui a un bail au premier tour. Donc, j'ai bien hâte de voir dans quel état il sera. On sait que c'est ses premiers tours, ses premiers matchs sont souvent compliqués. Donc, il y aura une bonne opposition de la part de Arthur Cazot qui jouera à la maison. Je répète les favoris de ce tableau. Donc, Holger Rune qui est premier favori et Alexandre Bublik en bas du tableau. Donc, qui sont des joueurs quand même compliqués dans plusieurs situations. Mais pour Félix, sur les livres, en tout cas, il pourrait faire un bon tournoi là, et souhaitons que ça se passe bien pour lui. Ça serait très bienvenu qu'il aille chercher ses 250 points à Montpellier.
Ben, quand on regarde, il peut définitivement aspirer au titre quand on regarde la façon dont le tableau se déroule.
Oui,
évidemment, s'il fallait qu'il y ait une finale contre Rune ou une demi-finale contre Shapovalov, ce ne serait pas nécessairement évident. Un Bublik non plus. Et surtout que Bublik a un arsenal de coups, des fois, qui peuvent vous désarçonner là, avec des coups spectaculaires.
Ouais,
et qui sortent un peu de nulle part, je vais le dire comme ça. Mais dans le cas de Félix, bon, quand on regarde la fiche des joueurs qui restent en lice, il a une fiche nulle ou gagnante contre à peu près tous les joueurs qui restent dans le tableau, sauf peut-être Shapovalov, là, s'il fallait qu'il l'affronte en finale, il a une fiche perdante contre Shapovalov. Et Benoît Paire qui a gagné son match pourrait l'affronter au troisième tour ou en quart de finale là, dans ce cas-là, parce que c'est Benoît Paire a battu Andy Murray, il a une fiche de 0-1 contre Benoît Paire et une fiche de 1-2 contre Cioric qui ne pourrait pas affronter avant la finale. Mais pour tous les autres joueurs, il a une fiche soit nulle ou gagnante. Alors, c'est très prenable comme tableau, comme pour Félix et Auger-Aliassime, mais on n'a pas dit ça souvent dans les dernières années.
Ben, Alex, moi, tu sais, avec Félix, depuis la fin 2023, évidemment, victoire à Bâle, hein, qui a un peu sauvé son année, mais je suis encore en ce moment en mode match après match, un match à la fois, comme dit le cliché, pour voir dans quel état physique et mental, confiance, on va retrouver Félix cette semaine à Montpellier. On saura assez vite dans quelle situation il est. Effectivement, Benoît Paire, c'est un match piège aussi, parce que Paire a les capacités de battre beaucoup de joueurs, mais j'aime les chances de Félix aussi contre un joueur comme Paire, parce que Félix est extrêmement stable, je dirais, au niveau de son jeu. Paire, c'est un peu une boîte à surprise. Là. On le sait, il peut être très, très, très colérique et péter les plombs à n'importe quel moment. Mais encore une fois, match après match, on verra. Mais c'est un tournoi où il peut avoir une potentielle rédemption là, pour Félix et finalement bien lancer son année 2024 qui a mal commencé en Australie.
Oui, ça a surtout mal commencé sur le premier tournoi. Là, quand même, évidemment, il a perdu au troisième tour contre Medvedev en Australie, mais je pense que il peut dire qu'il s'est rendu là où on l'attendait.
Oui,
c'est déjà ça dans le cas de Félix.
On n'a pas reparlé, tu as raison. Il s'est rendu au tour où il devait se rendre contre Medvedev. Par contre, c'est le score que j'ai moins aimé contre Medvedev. Voilà. Ça a été une défaite rapide quand même en 3-7. Il n'est pas allé plus loin que 6-4 là, sur les 3-7 contre Medvedev. S'il ne réussit pas à prendre un set ou à amener Medvedev au tie-break, ça me dit que l'écart en ce moment, quand même, avec les top 5, il reste quand même important pour Félix. Donc, à suivre là, cette semaine à Montpellier.
Dans le cas de Shapovalov, son premier adversaire de premier tour sera Hugo Gaston. Les preneurs au livre favorisent le français. Le français a un meilleur classement à vie de 58e mondial, il est présentement 88e. Je pense que le classement de 137e mondial de Shapovalov indique absolument pas le niveau de jeu qu'il peut offrir. Alors, c'est peut-être un pari intéressant si vous êtes un parieur d'aller prendre Shapovalov puisque Gaston, il est favori. Mais il reste qu'il y a beaucoup de points d'interrogation présentement autour de Shapovalov. Les derniers mois ont été compliqués et inconstants, serait un euphémisme de le dire de cette façon.
Ouais, bon, beaucoup de choses dans la vie personnelle de Denis en 2023. Il est nouvellement fiancé. Est-ce que sa tête était 100% au tennis? Je pense qu'il veut revenir, qu'il est sérieux, qu'il y a une suite à sa carrière, c'est certain. Mais quand tu décroches un peu du circuit, ça va tellement vite et on en parle régulièrement. La progression des meilleurs joueurs et le style de jeu actuellement laisse pas beaucoup de marge d'erreur. Il y a plus de points neutres qui se joue maintenant au tennis du côté masculin surtout. Il faut être au sommet de son art. Je suis convaincu que Denis a les armes pour y arriver, mais pour ça, il faut jouer des tournois, il faut jouer des matchs, il faut gagner des matchs. Donc, un petit peu comme Félix, là, recherche de repères pour Denis Shapovalov, recherche de réussite en ce début d'année.
Tu as dit tout à l'heure, je rappelle que la favori de ce tournoi-là est Holger Rune. Oui. C'est effectivement un gars qui peut aspirer à remporter ce titre-là, mais soyez pas surpris si Félix fait une bonne ride, comme on dit. Je pense que c'est très possible dans ce tableau-là. On s'en reparlera la semaine prochaine.
Holger Rune est protégé de Boris Becker, il faut le dire, qui a quand même perdu très tôt en Australie. Donc, quelques questions déjà sur cette association avec Becker. On sait qu'il s'est défait de son ancien coach, Patrick Moratoglou. Ça commence à devenir un cycle un peu, là, ce changement de coach avec Holger Rune. Donc, on verra dans quelle situation il est. Mais je suis content de voir Denis et Félix dans ce tableau-là en France.
Hugues, le monde du tennis est touché par par plusieurs controverses, mais il y en a une autre qui a fait surface cette semaine. On en parle après la pause.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin à l'Hôtel Montville. L'offre spécialement conçue pour cette occasion inclut 20% de réduction sur votre nuitée, une boîte de chocolat, deux petits déjeuners et un délicieux souper trois services au restaurant Monami. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30, les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous en trompez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
Hugues, pendant l'Omnium d'Australie, on a vu notamment le broadcast d'ESPN parler de l'affaire Zverev. On n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose quand même qu'on commence à noter, là. Pendant longtemps, c'est une affaire dont on parlait sur le bout des lèvres. C'est une affaire qui commence à faire jaser pas mal. On ne s'étendra pas trop là-dessus. On en parlera éventuellement avec Ben Rutherberg, là, celui qui est venu souvent nous parler au podcast. Et puis, c'est un des journalistes tennis les plus réputé dans le monde du tennis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est absolument indéniable. D'ailleurs, on salue sa biographie sur Naomi Osaka qui est en vente depuis le début de l'année. Mais je parlais de controverses. Martina Navratilova et Chris Evert ont levé le ton cette semaine pour dire qu'il y avait une certaine incohérence avec l'attitude de la WTA d'aller jouer les finales de la WTA en Arabie Saoudite alors que les droits des femmes étaient bafoués. Et ils ont décidé de dire que, c'était inquiétant d'une certaine manière que la WTA ait décidé d'aller dans ce sens-là.
Les deux membres du temple de renommée du tennis, Chris Evert, Martina Navratilova, qui sont aussi amies, anciennes grandes rivales du tennis féminin, ont vraiment fait une sortie forte pour dire il faut que la WTA affirme une position pour les droits humains et ne pas s'engager avec l'Arabie Saoudite. Mais bon, ça va être difficile de reculer. On sait qu'il y a un engagement déjà pour que les finales de la WTA soient disputées en Arabie Saoudite dès cette année. année. On sait que les finales de la Next Gen de l'ATP ont été disputées aussi en Arabie Saoudite à l'automne dernier. Et bon, on sait que les circuits ATP WTA sont en discussion avec l'Arabie Saoudite aussi, que Nadal a été nommé ambassadeur du tennis pour l'Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Et il fera son retour à Doha au Qatar dans quelques semaines. Donc, situation qui est en plein développement. Il y aura beaucoup de rebondissements. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que les deux circuits ont voulu prendre le taureau par les cornes et pas subir ce qui s'est passé du côté du golf avec la LIV, qui est devenu un circuit concurrent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Mais il y a comme deux clans qui se mettent en place là, sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Les McEnroe aussi ont pris une position là, contre la présence là, du tennis de plus en plus en Arabie Saoudite. Mais des grands noms comme Billie Jean King, la championne de l'équité, a dit il faut regarder maintenant comment on va aborder cette opportunité-là pour le faire de la bonne manière. Et visiblement, ils vont aller de l'avant avec les discussions. Mais comment ça va se régler tout ça? On va le savoir en 2024, plus tôt que tard, je crois.
Il y a beaucoup d'affaires là-dedans, Hugues. Et moi, il y a une incohérence qui m'embête, je vais le dire comme ça, mais la raison pour laquelle on est rendu en Arabie Saoudite pour les finales de la WTA, c'est parce que le contrat avec la Chine a été rompu. On aurait dû, pendant des années, faire ce tournoi-là en Chine, mais l'affaire Peng Shui, on a décidé de la WTA, et à ce moment-là, la WTA a été applaudie pour, entre guillemets, avoir mis ses culottes et dire on n'ira pas en Chine parce que les droits humains ont été bafoués dans le cas de Peng Shui, et ça semble évident pour tout le monde. Et là, on va aller dans un pays où, écoute, de notre point de vue à nous, je vais le dire comme ça, les droits humains semblent bafoués, particulièrement le droit des femmes. Et c'est pas pour rien que Navratilova et Chris Evert ont recommandé de ne pas aller là et ont littéralement dit que ça ne représenterait pas un progrès pour la WTA d'aller dans un pays comme ça. Il y a une incohérence à ce niveau-là.
C'est un dossier complexe. Le premier point qu'il faut aborder, c'est le point financier, comme toujours. La WTA dans une situation compliqué au niveau des finances. Ils ont besoin d'entrées de revenus, de nouveaux revenus. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas le choix en ce moment de considérer les offres qui viennent de l'Arabie Saoudite. Mais on en a parlé un peu plus tôt, hors d'onde. Vaut mieux peut-être aborder cette opportunité-là dans un mode de dialogue ou peut-être essayer de changer des choses dans les règles qu'on va mettre en place et les conditions qu'on va mettre en place pour faire une entente avec l'Arabie Saoudite plutôt que d'être plutôt en mode attente et d'être plutôt vulnérable s'ils décident de leur côté de faire un nouveau circuit ou d'avoir des nouveaux tournois avec des plus grosses bourses qui attireraient les joueurs de toute façon. Donc, je pense que l'approche de dialogue ou de discussion est peut-être saine, est peut-être la bonne approche stratégique à avoir pour la WTA notamment. Et vaut mieux essayer d'y aller, encore une fois, de l'intérieur que de se faire attaquer là, d'une manière hostile, là, comme ça a été le cas au niveau du golf.
Ouais, bon, ça c'est l'élément qui est intéressant à mon avis, à moi, c'est peut-être de se dire, d'accord, on va essayer de changer les choses de l'intérieur. Ouais. On va accepter le contrat avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir aller imprégner l'Arabie Saoudite, je vais dire comme ça, peut-être c'est de culture occidentale où les droits humains, du moins de notre point de vue à nous, sont mieux et plus respectés. Ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que les joueuses vont y aller? Peut-être des joueuses qui vont dire, moi, si c'est en Arabie Saoudite, je veux rien savoir d'y aller. Peut-être, tu sais, je sais pas, une Jessica Pegula, par exemple, là, qu'elle a aucun motif financier intéressant. Je veux dire, après se faire offrir 150 millions, puis ça changerait rien dans sa vie. Tu sais, peut-être qu'elle va dire, aucune chance que j'y aille. Peut-être qu'on va décider d'y aller pour changer les choses à l'extérieur. Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que tu penses que les joueuses devraient mettre leurs pieds à terre? Parce que c'est un peu ce que Navratilova et Chris Evert ont recommandé. Là.
Écoute, il semble avoir une scission entre les joueurs et joueuses, je dirais, qui sont à la retraite et un petit peu plus vieux et les jeunes. Je pense que pour ceux qui sont encore en train de bâtir leur carrière, de bâtir leur revenu, ils sont à l'écoute quand même, comme tous les sports l'ont été. Hein. La F1 est rendue, évidemment, le golf est rendu, la NBA va faire des matchs aussi là-bas. Donc on ne peut pas faire sans, je dirais, en 2024. Et encore une fois, quand Billie Jean King, qui est la bonne conscience ou l'ultime conscience là, de notre au niveau droit de l'homme et de la femme, au niveau équité salariale, équité en général, dit il faut considérer et discuter, ben c'est un gage de réflexion là, qui va résonner beaucoup auprès de plusieurs joueuses aussi. Bon, je pense qu'il y a des joueuses qui sont commis déjà, comme des Ons Jabeur, évidemment, qui est tunisienne, qui dit il faut y aller maintenant. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait trop de dissensions, Alex. Là, il y en aura peut-être quelques-unes. Puis je pense que Jess Pegula, tu l'as identifié, ça serait une qu'on pourrait peut-être voir dire non, moi, je ne me prête pas à ça pour plein de raisons. Mais je ne m'attends pas à ce que... En fait, je m'attends à ce que toutes les joueuses le considèrent. En tout cas, je pense que ça va être surtout dans la manière que ça sera fait.
Intéressant. Et en même temps, d'un autre côté, tu as Rafael Nadal qui devient ambassadeur pour le tennis dans les pays arabes. Alors, et Rafael Nadal qui est vu comme un des plus grands gentilshommes qui a un respect fou. Tu sais,
oui.
J'aurais été curieux de voir si Andy Murray aurait accepté ce deal-là. Sais-tu quoi? On en parle, là, j'aurais été curieux, parce qu'Andy Murray est un qui est très, très vocal par rapport à ça, mais en même temps, Rafael Nadal, c'est un gars qui a, de ce qu'on en sait, les valeurs à la bonne place, qui a une moralité presque parfaite, si on veut. Là. Et, il y a une image de joueur et de personne parfaite un peu à la Federer. Alors, c'est quand même intéressant de voir que lui a accepté ça. Alors, il doit y avoir des bonnes raisons au-delà des raisons financières, parce qu'on s'entend, là, Rafael Nadal, là, sa principale motivation dans ce cas-là, elle n'est pas financière. En tout cas, je tomberai en bas de ma chaise d'apprendre que c'est le cas.
Ben, je pense qu'il y a eu des conditions qui ont été discutées. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction du volet financier, mais ce n'est pas ça qui a été sa première motivation. Il n'aurait pas pris le risque d'entacher sa réputation, qui est excellente. C'est un gentilhomme. Tout le monde l'apprécie, peu importe où il passe, Rafael Nadal. Donc, je pense qu'il a dû signer dans certaines conditions, mais il va toucher un très beau chèque, c'est garanti. Murray, tu en as parlé, a réaffirmé sa position contre jouer là-bas. Donc, il ne jouera pas en Arabie Saoudite. Mais encore une fois, ça faudra voir, ça sera quoi. Puis on parle de Murray, c'est un joueur qui est en fin de carrière aussi. Moi, je parlais des jeunes qui vont, selon moi, tous et toutes le considérer. Ça va être à suivre, mais c'est un débat qui va prendre de l'ampleur. Et on sait que l'ATP, la WTA, avec les grands chelems, ont pris le taureau par les cornes et ont considéré avoir un nouveau circuit premier. Ils sont en train de revoir comment dynamiser le circuit pour que ça soit plus facile pour les fans de suivre ce qui se passe durant l'année. Et tout ça est un peu motivé par la menace qui vient de l'Arabie Saoudite aussi. Enfin, encore une fois, je vous le dis, c'est un dossier qui est jeune cette année, qui occupe beaucoup de discussions politiques, beaucoup de lobbying en cours entre les fédérations en ce moment. Mais il va y avoir des rebondissements, là, selon moi, avant Wimbledon cette année, on sera fixé sur la position des circuits avec l'Arabie Saoudite.
C'est un dossier qu'on va suivre parce que oui, on suit les résultats au jour le jour, mais on aime beaucoup suivre, je vais dire comme ça, le côté politique du tennis aussi, parce que ben, je pense que ça fait également partie du sport, qu'on le veuille ou non. Épisode très complet, mon cher Hugues, une fois de plus. Je rappelle que la Coupe Davis sera diffusée à TVA Sport et elle est également présentée au stade IGA. Il reste quelques billets de disponibles, oui. Alors dépêchez-vous si jamais vous voulez assister, voir les Alexis Gallarneau Diallo. Il y aura également... à TVA Sport, Doha qui sera diffusé dans quelques semaines. Et avant qu'on se laisse aller, Hugues, tu voulais nous faire une dernière mise à jour sur les chiffres de l'Omnium d'Australie.
Ben les chiffres ont été annoncés par le CEO de Tennis Australie, Craig Tilley. C'est une année record, donc plus de 1 million de spectateurs ont franchi les tourniquets en Australie pour voir les matchs. C'est une année record au niveau de l'assistance, plus de 200 millions au niveau de l'écoute pour les demi-finales. Je n'ai pas vu encore les chiffres des finales au moment où on les enregistre, mais ça fait dire à Craig Tilley que c'est une année record, le plus grand Australian Open de l'histoire pour ce Grand Chelem qu'on appelle le Happy Slam, qui a sa propre personnalité, qui est, ma foi, très intéressant à suivre, bien que c'est dur au niveau des fuseaux horaires ici. Je tiens aussi à souligner la performance de Nick Kyrgios comme analyste à la télé, qui a fait un boulot superbe, un gars intéressant, drôle. C'était vraiment fascinant de le suivre dans ses commentaires. Et Jim Courier, qui a été excellent dans ses entrevues d'après-match sur le terrain pour ESPN, champion en 93, Jim Courier. Donc, ça a été un très beau Open d'Australie et année record apparemment au niveau des chiffres.
Je pense qu'il n'y a personne qui doutait que Nick Kyrgios allait être un bon commentateur. Il n'a pas eu la langue dans sa poche, en tout cas, à réprimander quelques actions des joueurs, ou à douter d'actions de joueurs et également des arbitres, c'est pas gêné. Il faisait comme joueur. Non. C'est, on savait qu'il était un excellent candidat pour ça. Et oui, excellente couverture de ESPN. Et salut la couverture de RDS également dans notre patelin sur le Grand Chelem. Hugues Léger, je te souhaite une excellente soirée. Et avant de te laisser partir, je te donne le traditionnel mot de la fin.
Ben, bon tennis, Alex. Bon tennis à notre équipe de Coupe Davis qui joue à Montréal cette semaine. Bon tennis, tout le monde.